Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Les Français ont le sentiment diffus que le marché européen économique est de plus en plus ouvert, de plus en plus libéral, et à la fois, il faut bien le dire, il est très réglementé. Alors d'où vient cette hostilité au marché commun et comment s'effectue cette régulation ou cette dérégulation à l'échelle européenne et par subsidiarité en France? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pierre Bauchet, qui est un grand observateur des expériences américaines de régulation, économiste et membre à l'Académie des sciences morales et politiques, et Philippe Jürgensen, qui est lui acteur de la régulation française puisqu'il est président de la CAM, l'autorité de contrôle des assurances et mutuelles, et professeur d'économie à Sciences Po. Bonjour à chacun.
Bonjour Priscille.
Bonjour madame.
Pour commencer, nous allons peut-être définir les termes de nos propos. Qu'est-ce qu'une régulation économique à l'échelle européenne ? Monsieur Jürgensen.
Je pense que la régulation est un concept un peu flou, effectivement, et il faut essayer de voir quelles sont les fonctions qui sont derrière cette idée de régulation. Moi, j'en vois quatre. Il y a une fonction d'arbitrage. Les instances de régulation sont des juges de paix qui sont là pour aplanir les conflits et pour protéger les libertés publiques, souvent, avec cette idée implicite qu'un gouvernement peut être parfois accusé de partialité, notamment quand il s'agit justement du domaine des libertés publiques, et que donc l'arbitre impartial, un peu déconnecté des contingences de la politique et du pouvoir exécutif, peut jouer mieux ce rôle de juge de paix ou d'arbitre. Il y a un deuxième rôle qui est de coordonner, d'harmoniser, d'assurer ce que les anglo-saxons appellent « level playing field », c'est-à-dire un champ égal pour tous. Et donc, il s'agit de clarifier les règles du jeu. Alors, il y a un rapport du Conseil d'État de 2001 sur les autorités administratives indépendantes qui décrit ces différents stades de la régulation. La régulation à l'entrée, c'est-à-dire permettre que là où il y avait des monopoles, chacun puisse accéder avec plus de liberté. La régulation de la dominance, c'est-à-dire lorsqu'il y a une entreprise publique ou privée qui joue un rôle dominant sur un marché, permettre aux autres de fonctionner avec le plus d'égalité possible. On voit bien ça dans le domaine de l'audiovisuel, par exemple. Et puis la phase de régulation de la concurrence, on le voit très bien, puisqu'il y a une autorité qui est chargée d'attribuer des surfaces au commerce, une autre qui est chargée d'attribuer des longueurs d'onde aux radios. Il s'agit en fait de répartir toujours équitablement les parts de marché. Et tout ceci en associant les professionnels le plus possible à l'élaboration des normes. Il y a une troisième fonction qui est la surveillance et, si nécessaire, la sanction. Alors ça, c'est davantage un rôle de police administrative, un rôle consistant à empêcher les abus pour protéger, selon les cas, les consommateurs, les assurés, les abonnés, les électeurs et globalement assurer ce qu'on appelle dans le langage à la mode aujourd'hui la bonne gouvernance. Ce qui suppose évidemment qu'il y ait une surveillance et même, quand c'est nécessaire, la possibilité de prendre des sanctions. Et puis une dernière fonction qui est discutée d'ailleurs, qui est celle de réglementer. Bien sûr, la réglementation, c'est normalement le rôle de l'État, mais il y a un certain nombre de cas où il faut par exemple des règles techniques plus détaillées lorsqu'il s'agit de dire à quoi doit ressembler un prospectus émis par une société qui va se présenter sur les marchés pour recueillir des fonds. C'est le rôle de l'AMF. On voit bien qu'il y a, en dehors de ce que peut réglementer l'État, un degré de détail plus grand qui peut être le rôle d'un organisme technique. Ça peut aussi être un rôle dans la doctrine, élaborer des recommandations, des codes de déontologie. Et on voit bien que quand on a... des domaines dans lesquels il peut y avoir un certain consensus de tous les intéressés, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une réglementation, mais il y a une sorte de sous-réglementation, un corps de doctrine qui peut être élaboré ou publié ou assisté par une autorité de régulation.
Monsieur Bauchet, sur cette définition.
Monsieur Jorgensen, de cette précision, peut-être de cette précision très importante, je crois qu'il faut bien se rendre compte que pour vous, auditeurs, comme pour moi, à titre personnel, la régulation, nous la sentons dans le domaine économique, je me limiterai dans mes réflexions essentiellement au domaine économique, la régulation concerne fondamentalement et nous touche essentiellement, pour le moment, en ce qui concerne les services d'intérêt général. Car c'est finalement par les services d'intérêt général dans le domaine économique que la régulation a commencé partout. Il faut bien voir qu'en France, comme aux États-Unis, les problèmes de régulation, ou au niveau de l'Europe, nous le verrons plus tard, la régulation concerne essentiellement les problèmes de services publics. Mettre en concurrence les services publics et maintenir cette concurrence dans les services publics a été fondamentalement la mission du système de régulation. En effet, on peut dire que jusqu'à ce que la régulation intervienne, ou ce pourquoi elle est intervenue, c'est parce que il n'y avait pas réellement de concurrence. Or, il faut bien se souvenir, je le répète à nouveau, que l'un des buts fondamentaux de la régulation économique, c'est d'assurer la concurrence sur des marchés qui n'y sont pas et de la maintenir.
Donc établir des règles dans un marché ouvert.
Ouvrir le marché et d'établir des règles. Je renverserai votre propos. Prenons un exemple, qui est par exemple celui de l'électricité. N'est-ce pas ? Il ne fait aucun doute que jusqu'alors, nous avons vécu, il faut le dire bien vécu, dans un régime où notre consommation d'électricité était régie par Électricité de France, les prix fixés par elle, la mise en route du système de production était organisée en monopole par l'Électricité de France. Et puis, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible de fonctionner de cette manière pour une série de raisons. Mais la plus simple étant que si chacun des pays d'Europe fait la même chose, il n'y a plus de marché commun. Pour qu'il y ait un marché commun, il faut à tout prix qu'il y ait une autorité commune qui harmonise, en quelque sorte, la situation des différents marchés nationaux, qui les harmonise et qui permette une concurrence. Et c'est cela, je crois, en matière économique, n'est-ce pas, sans parler du reste, la fonction fondamentale de la régulation, la mise en concurrence et le maintien de cette concurrence.
Alors pour terminer cette introduction, cette mise en œuvre, Monsieur Jorgensen, qui sont les acteurs de la régulation économique, ou plutôt peut-on parler de dérégulation économique à l'échelle européenne et en France ? De qui parle-t-on ?
Les acteurs de la régulation économique sont nombreux. Il n'y a pas que les autorités administratives indépendantes. Leur apparition est même plutôt nouvelle dans l'ensemble. La régulation est fondamentalement le fait des États. L'État est chargé de l'intérêt général, il établit les règles, régulation vient de règles, évidemment. Et lorsqu'il s'agit de fixer les règles du jeu et d'arbitrer, c'est normalement le rôle de l'État. Ce qui est nouveau dans cette évolution, c'est l'apparition d'autorités ou de commissions, aussi bien à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale, pour assurer une partie de ce rôle. Alors on peut se demander si cette évolution est naturelle ou pas, si c'est une tendance inévitable de la société ou si c'est au contraire un moment de l'histoire et qu'on arrivera à d'autres systèmes. Mais indéniablement, il y a une accélération de ce phénomène. Par exemple, en France, les deux tiers des autorités ou commissions chargées de régulation ont été créées depuis moins de 15 ans. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'accélération de l'histoire. Et à l'échelle européenne, on crée aussi, alors ça s'appelle généralement pas autorité ou commission, mais agence en général, mais c'est tout à fait la même idée pour, comme l'a expliqué Pierre Bouchet tout à l'heure, ouvrir un marché, fixer les règles du jeu sur ce marché, mais parfois aussi pour d'autres rôles, toujours dans cette idée globale de fixer des règles du jeu.
Alors, nous parlons de régulation à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. Vous disiez à l'instant, M. Jorgensen, que nous sommes passés de l'échelle nationale à l'échelle européenne. Comment se passe aujourd'hui la régulation au niveau de Bruxelles et de l'application ensuite en France ? Qu'est-ce qui relève du principe de subsidiarité ? Qu'est-ce qui relève de l'application directe de ces règles, M. Bauchet ?
Oui, je voudrais, sur ce plan, peut-être commencer par effectivement, la façon dont Bruxelles procède. C'est ce qu'on appelle une administration composée. C'est-à-dire que nous avons une régulation qui est faite des règles qui sont fixées par Bruxelles dans des réglementations et par des directives de la Commission. Ces règles, il faut les appliquer dans les différents États du marché commun. Et c'est en quoi c'est une administration composée, c'est que, en fait, l'application de ces règles, orientée par Bruxelles, est faite par les régulations nationales. Bruxelles n'a pas de ministère de l'énergie, n'a pas de ministère des transports. Il se contente d'indiquer ce que doivent faire les différentes régulations nationales, et les régulations nationales fixent à ce moment-là les différentes manières par lesquelles, ou les différents traits que doivent appliquer les régulations nationales. Autrement dit, prenons un cas très précis, lorsque les avions atterrissent sur Orly, par exemple, bien que là, la régulation soit souvent directe, il reste quand même des choses au plan des États, la distance, la cadence à laquelle les avions atterrissent, la distance sur les aéroports entre les avions, tout cela reste de la régulation des États. Autrement dit, il y a une composition de la fixation de règles par Bruxelles, l'une de ces règles étant que tout pays du marché commun doit avoir des autorités de régulation pour en assurer l'application et que ces autorités de régulation doivent obéir à des règles communes, n'est-ce pas ? Et dans la nation applique. Alors, c'est une façon très, très originale, je dois dire. Je prendrai toujours, j'ai en arrière-plan l'expérience des États-Unis que j'ai le plaisir de vivre il y a maintenant plus d'un demi-siècle. À l'époque, n'est-ce pas, il faut bien voir comment l'opération est montée aux États-Unis. Elle s'est montée de façon différente. Il faut bien voir que ce sont les municipalités américaines qui ont, d'ailleurs, comme les municipalités françaises, commencé par établir des règles à permettre à un certain nombre de services publics de fonctionner. Le gaz était distribué en France par des entreprises municipales, comme aux États-Unis. Et ensuite, les municipalités se sont trouvées en présence d'une difficulté, c'est qu'elles se sont mises toutes à fabriquer, disons, du gaz, à avoir des moyens de transport. Les lignes de transport se sont étendues au niveau des États et n'ont plus été capables d'assurer l'aide seule la régulation, c'est-à-dire les différentes contraintes que subissaient les services publics. Et puis au bout d'un certain temps, au plan national des États-Unis, c'est ce qui s'est passé pour l'Europe aujourd'hui, on est passé de services de transport qui sont devenus de plus en plus inter-européens. Et à ce moment-là, il a bien fallu établir au niveau de Bruxelles un certain nombre de règles pour éviter que chaque État ne fasse ce qu'il voulait indépendamment de la situation des autres. C'est devenu physiquement impossible. Autrement dit, il ne faut pas dire « Bruxelles, aujourd'hui, nous impose des choses qui ne sont pas normales ». C'est la réalité de la vie économique qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer l'électricité de France indépendamment ou le gaz de France indépendamment de la régulation en Allemagne des problèmes de l'énergie et beaucoup plus naturellement au niveau mondial. C'est, si vous le voulez, cette nécessité du développement économique, de l'internationalisation des firmes, qui est derrière la création, puis l'extension d'une régulation européenne.
Il y a un exemple concret très récent de ce que vient de dire le professeur Bauchet, c'est la coupure électrique géante qu'il y a eu en Europe de l'Ouest, parce que du côté de Brême, une ligne avait été interrompue, la France a été touchée, l'Italie, l'Autriche, nous sommes vraiment solidaires, et donc c'est normal qu'il y ait un certain niveau de règles à l'échelle européenne.
Alors la comparaison américaine est très intéressante, puisqu'il s'agit bien d'un État fédéral, enfin d'une nation fédérale, et que nous ne sommes pas non plus dans une Europe fédérale aujourd'hui. Est-ce que la régulation économique y pousse et va dans ce sens-là ?
Je pense qu'il faut bien voir que cette évolution qui effectivement suppose qu'on adopte des règles pratiquement à l'échelle d'un continent maintenant, puisque l'Union européenne, c'est 25 pays, c'est toute l'Europe, à part la Russie et l'Ukraine. Cette évolution fait qu'on a un niveau de normes qui est arrêté à Bruxelles pour le compte commun et qui est ensuite démultiplié, traduit, transposé dans le langage technique dans les États. Bruxelles fait beaucoup de législation, mais il fait de plus en plus une législation cadre, ce qu'on appelle les directives européennes. Alors Bruxelles peut aussi faire des règlements précis dans un certain nombre de cas, mais le plus souvent il fait des directives qu'on va appeler maintenant loi cadre européenne. Et l'activité législative des États maintenant est souvent la transposition, c'est-à-dire l'adaptation à chaque pays de règles générales d'intérêt commun qui ont été fixées à l'échelle du continent, en fait. L'activité législative française, aujourd'hui, plus de la moitié, c'est la transposition de directives européennes. Donc, traduire dans notre langage et vie française des normes qui ont été conçues en commun.
Alors, nous marquons une toute petite pause.
Canal Academy vous propose un grand entretien avec Michel Serres de l'Académie française sur la notion d'identité. Quelle différence entre identité et appartenance? Qu'est-ce que l'hominescence? Quel rapport entretenons-nous avec notre corps? Autant de questions auxquelles répond Michel Serres dans une émission Éclairage en libre téléchargement sur Canal Academy.
Monsieur Jürgensen, vous parliez à l'instant de transposition des directives européennes. Quelle est la marge de manœuvre des États? On parle du principe de subsidiarité. Comment s'applique-t-il?
Alors, il y a effectivement un principe de subsidiarité qui est maintenant mis en avant comme une règle constitutionnelle européenne. Il était d'ailleurs explicité et garanti par le projet de traité constitutionnel. C'est un peu un paradoxe que ce texte ait été rejeté alors que justement il garantissait ces règles de subsidiarité. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est que Bruxelles ne doit faire que ce que les États ne peuvent pas faire mieux ou aussi bien. Il y a des domaines dans lesquels, à l'évidence, on l'a expliqué tout à l'heure, il faut une règle à l'échelle commune parce que les intérêts sont vraiment imbriqués. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels les États peuvent et doivent faire leurs règles eux-mêmes. Alors, il faut aussi, je crois, bien distinguer ce qui relève du domaine de la régulation européenne ou nationale, par exemple, à l'échelon européen, la politique de la concurrence, lutter contre les positions dominantes, assurer l'accès de chacun au marché, etc. La politique de la concurrence, dont on parle beaucoup, est une politique commune de régulation, clairement. La surveillance des aides d'État, veiller à ce qu'un État n'avantage pas excessivement ses entreprises dans la concurrence par rapport aux autres, est un exemple de cette régulation européenne de la concurrence. Mais on pourrait aussi citer l'ouverture du secteur des transports, des télécommunications et, comme l'a dit Pierre Bouchet tout à l'heure, de l'électricité. Mais l'ensemble de la politique européenne n'est pas une politique de régulation. Il y a aussi d'autres politiques européennes, par exemple les organisations de marché. Dans le cadre de la politique agricole commune, ne sont que lointainement des régulations, c'est surtout de l'action économique. La monnaie commune européenne, c'est une politique commune, mais ça n'est pas vraiment une régulation. Les politiques d'aide régionale, rééquilibrer les régions moins avancées en Europe par rapport aux autres, ne sont pas non plus des politiques de régulation ou la politique commune de recherche. Donc il y a un champ qui est celui de la régulation dans lequel on voit bien ces deux échelons de la règle d'intérêt commun européen et de la règle nationale. Et puis, il y a les actions de l'Union européenne sur un certain nombre de secteurs dans lesquels il y a une politique propre. Un domaine dans lequel on est à mi-chemin entre la régulation et l'action économique, c'est celui des politiques budgétaires. On a un pacte de stabilité et de croissance qu'on peut appeler une politique de régulation, puisqu'elle cherche à encadrer les actions des États. Et en même temps, à l'intérieur de cette règle générale, on a des politiques économiques et budgétaires menées par chaque État qui, du moment qu'elles respectent le cadre global, la fameuse limite de 3% et quelques autres règles, sont libres.
Monsieur Boucher, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que c'est un excellent exemple de la souplesse de cette pseudo-régulation, puisqu'en réalité, nous savons parfaitement que la règle des 3% n'a pas été respectée et que, en fait, il n'y a pas de sanctions prévues à proprement parler. Il y a des remontrances, disons, de Bruxelles, pour le moment, ne dépassent pas cela. Et effectivement, il est très probable que dans l'immédiat, il n'y aura pas une régulation de la politique budgétaire des États au sens étroit du mot, c'est-à-dire qu'elle restera, cette politique budgétaire, probablement au moins pendant un certain temps, dans la main des États et probablement encore très longtemps. Ce que je voudrais dire aussi à ce propos, c'est que cette régulation, pour revenir à la politique de concurrence, un des points qui est très débattu et que je crois il est difficile de le comprendre, c'est le problème de la privatisation. On dit, et c'est assez directement faux, que Bruxelles a obligé les pays d'Europe à privatiser les grandes entreprises publiques. Ce n'est pas exact directement. Il n'y a aucune régulation de Bruxelles directe disant vous privatiserez EDF ou Gaz de France, ou etc. Mais il est bien évident que la politique de concurrence exige, dans une certaine mesure, des privatisations. Je vais prendre un exemple. EDF, par exemple, avait jusqu'alors intégré complètement les problèmes de production et de transport qui étaient gérés par l'entreprise EDF qui était le producteur et le transporteur de l'électricité en France. Or, cette situation est intolérable du point de vue de la concurrence. Pourquoi est-elle intolérable? Eh bien, tout simplement parce qu'on mêle le transport, qui est une sorte de monopole naturel. On ne peut pas faire passer, avoir plusieurs réseaux de transport parallèles. On a en fait un réseau de transport qui est utilisé par différents producteurs. Donc, l'Europe nous dit, il faut que vous sépariez, comme on l'a fait d'ailleurs pour les chemins de fer, c'est fait pour les chemins de fer et nous avons beaucoup freiné pour l'énergie puisqu'en fait la séparation du transport d'électricité n'est pas faite pour le moment puisque c'est une société, elle est faite juridiquement, mais elle n'est pas faite patrimonialement puisqu'en fait actuellement c'est une filiale d'EDF, autrement dit EDF conserve la haute main. Mais si l'on veut vraiment régler d'un côté le problème du transport qui est un problème de monopole, de gestion de monopole, et d'autre part, et ne pas le confondre avec la production qui doit être ouverte à différents producteurs en Europe, il faut séparer les deux. Comment séparer les deux? C'est extrêmement difficile. Si on avait conservé le bloc EDF, on ne pouvait pas. Donc on a divisé les deux en conservant une partie, le transport, qui est assez étroitement géré de façon à être maintenu artificiellement en concurrence de celui de la production. Par contre, sur la production, il y a des règles de Bruxelles très précises qui sont notamment qu'il ne faut pas qu'il y ait de subventions données à certains producteurs d'électricité et pas à d'autres. Comme il ne faut pas, en réalité, si on ne privatise pas, on va interdire à EDF, en tant que producteur, de recevoir des subventions et de ce fait, il y a une interdiction de Bruxelles, n'est-ce pas, de privilégier le producteur historique par rapport au nouveau producteur. Donc, on va être conduit, si l'on veut trouver de nouveaux capitaux, car financer l'EDF, c'est extrêmement cher, on ne peut pas le faire dans le cadre d'une entreprise nationalisée, puisque c'est contraire aux règles de Bruxelles. Donc, on va privatiser de façon à permettre d'obtenir des capitaux sur le marché sans tomber sous le coup d'une condamnation de Bruxelles pour subvention donnée à un producteur par rapport à autre. Le maintien de la concurrence à ce niveau exige que l'on ait une privatisation partielle de l'EDF.
C'est ce qui illustre effectivement tout à fait le malaise de Bruxelles par rapport au monopole public, à la propriété publique d'entreprise. Effectivement, les règles ne s'y opposent pas du tout sur le plan des principes, mais dans la pratique, on ne sait jamais quand il y a une entreprise publique si l'État l'aide ou pas, s'il a le droit de l'aider. Et donc, c'est vrai que Bruxelles est quand même plus à l'aise avec les privatisations. Mais en même temps, la Commission européenne a toujours dit qu'effectivement, elle ne les imposait pas. Ce qu'elle impose, c'est des règles du jeu égales. Il y a un exemple qui complète les excellents exemples qu'a cité le professeur Bauchet des transports et de l'électricité, c'est celui des télécommunications, qui est un peu plus avancé que l'électricité dans la voie. Mais on voit bien que France Télécom peut rester une entreprise à propriété publique partielle, il pourrait même être à propriété publique totale, à condition d'accepter de transporter au même prix que pour lui-même les communications téléphoniques des autres. C'est ce qu'on appelle le dégroupage. Et toute l'évolution de ces dernières années a été une lutte, un combat de retardement de France Télécom pour lâcher le plus tard possible cette possibilité qu'il est obligé maintenant par la régulation européenne de donner à ses concurrents. Et pour veiller à cette égalité de concurrence, on a créé une autorité administrative indépendante qui est l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. C'est justement son rôle de veiller que France Télécom ne traite pas ses propres communications plus favorablement que les communications des concurrents. La tendance à le faire est évidemment naturelle. D'où l'intervention d'une autorité de régulation pour veiller à ce que la concurrence soit égale.
Alors justement, M. Jorgensen, est-ce que les règles européennes sont toujours claires? Quelle marge de manœuvre? Ou est-ce que l'État, les États nationaux ont une liberté d'interprétation? Ou pour le dire encore plus simplement, est-ce qu'on ne mène pas parfois des privatisations en France en mettant la raison de cette privatisation sur le dos de Bruxelles et peut-être un peu facilement?
Oui,
Monsieur Bauchet.
Je crois que pour les Français, Bruxelles impose une série de mesures, et c'est vrai. Par exemple, dans le domaine de la, prenez le domaine du contenu d'un permis de conduire, de l'harmonisation des règles de conduite, on va de plus en plus vers des réglementations directes européennes. C'est tout à fait dégueulasse. Mais l'originalité du système français, c'est bien cela. C'est qu'il n'impose pas dans le quasi-fédéral qu'est Bruxelles, si vous voulez, ne parlons pas de fédéral, le quasi-fédéral qu'est Bruxelles, n'impose pas directement toute une série de règles. Il laisse aux États une certaine liberté. Prenez la comparaison avec les États-Unis, que j'aime bien comprendre, puisqu'il y a une évolution qui est pleine d'enseignements. Je souhaiterais qu'on en dise deux mots à la fin. Au départ, il y a une régulation municipale qui a nécessairement, par la logique des choses, qui est devenue une régulation des États américains. Et il y a petit à petit une régulation fédérale qui s'est imposée, notamment en matière de transport, puisque les transports parcouraient les États-Unis. Et c'est pourquoi la première autorité de régulation américaine a été l'Interstate Commerce Commission en 1887, si ma mémoire est bonne, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Autrement dit, il y a eu une régulation fédérale qui s'est imposée et qui, alors, la différence avec Bruxelles, c'est qu'elle est directe, il n'y a pas de principe de subsidiarité aux États-Unis. Mais, bien que la régulation fédérale ait beaucoup plus d'importance, d'impact direct que la régulation de Bruxelles, en fait, la régulation des États américains, et c'est très remarquable au cours du temps, non seulement s'est maintenue, mais s'est développée aux États-Unis. Ce qui est très remarquable, c'est que les derniers problèmes qui ont été posés en matière de pollution, par exemple, vous voyez un des États américains qui a décidé d'assurer lui-même une politique anti-pollution à laquelle le fédéral se refusait. Autrement dit, je crois que c'est un bon exemple pour dire « ne croyons pas que nous allons être automatiquement et d'une façon très générale dirigé par Bruxelles, même si Bruxelles se transforme en une véritable fédération, la marge d'action des États non seulement se maintient, mais dans certains domaines s'est développée aux États-Unis. C'est une très grande leçon pour nous qui devrait calmer les inquiétudes de tous ceux qui considèrent que Bruxelles est en train de nous manger la laine sur le dos. Dans le domaine de la réglementation, l'histoire américaine prouve que, en réalité, les États américains ont pu parfaitement défendre leur autonomie à l'intérieur d'une régulation fédérale beaucoup plus contraignante pour les États que n'est la régulation de Bruxelles vis-à-vis des États français, des États européens, pardon.
Oui, et ça pose une question complémentaire. Effectivement, l'exemple américain, comme ils ont commencé plus tôt,
oui,
est intéressant
un siècle
pour prédire l'évolution future, peut-être chez nous. Ça pose aussi un autre problème, qui est celui de savoir quels sont les liens entre les instances de régulation nationales et l'échelon que vous appeliez quasi-fédéral tout à l'heure. Et donc la question est souvent posée dans tel ou tel secteur, est-ce qu'il faut fédérer les autorités administratives indépendantes? Est-ce qu'il faut les fusionner, créer une seule autorité de régulation à l'échelle européenne à la place des autorités nationales? Est-ce qu'il faut avoir une structure à deux échelons avec un coordonnateur européen, mais des instances de régulation nationale? On voit bien qu'il y a plusieurs schémas possibles. Ça peut aller de la simple coopération qui existe dans beaucoup de secteurs actuellement à une structure à deux échelons ou à une fusion complète à l'échelon européen. Ce sont évidemment des parties qui se prendront dans l'avenir et qui ont des conséquences différentes.
Nous marquons une toute petite pause.
1866 est une date clé dans la destinée de Bismarck. La Prusse devient l'Allemagne. Pour Canal Académie, Jean-Paul Bled, professeur à Paris 4 Sorbonne, spécialiste des mondes germaniques, auteur d'une biographie sur l'empereur, nous livre les moments phares de cette année dans l'émission Un jour dans l'histoire. Téléchargez-la sans plus tarder sur canalacademy.com.
Monsieur Boucher, Monsieur Jorgensen, nous parlons de régulation économique à l'échelle européenne. Il est judicieux aussi de parler de régulation à l'échelle française, ne serait-ce parce qu'il y a une dérégulation strictement française et puis des régulations européennes transposées au niveau français. Et pour cela, nous avons créé tout récemment ce qu'on appelle des autorités de régulation en France et qui s'appellent en France des autorités administratives indépendantes, qui ont cette double fonction d'être administratives et indépendantes, comme leur nom l'indique. Et elles sont très récentes. Hein, Monsieur Jorgensen, vous êtes par exemple à la tête de la CAM, qui est une autorité de régulation pour les assurances et les mutuelles. Comment ça a été créé? D'où viennent-elles? Quel est leur historique?
Oui, l'historique de la CAM est un peu symbolique, effectivement, de cette évolution vers la régulation autonome par rapport au pouvoir direct de l'État, puisque autrefois, il y avait une direction des assurances, qui était une direction du ministère, comme la direction du budget ou du trésor, et l'État exerçait donc ce rôle de régulation en direct sur le secteur des assurances. Et puis, petit à petit, il a créé une commission de contrôle des assurances. Et puis, ses attributions, mais tout récemment, ont été élargies. C'est la loi de sécurité financière de 2003. Et on a créé une autorité qui rassemble le contrôle de l'ensemble du secteur de l'assurance, des mutuelles et des institutions de retraite. C'est une autorité qui répond, comme les 38 autres autorité administrative indépendante en France, un certain nombre de critères qui ont été posés dans les rapports récemment faits sur ces sujets, parce que le sujet intéresse en ce moment. On sent bien que les autorités s'interrogent. Il y a eu le rapport du Conseil d'État dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu un rapport parlementaire important qui passe en revue l'ensemble des autorités administratives indépendantes et qui fait un certain nombre de suggestions. Enfin, on peut les définir globalement comme des organismes administratifs. Ce sont des parties des pouvoirs publics qui agissent au nom de l'État, donc qui ont derrière elles l'autorité de l'État. Sans l'État, elles ne seraient rien d'un certain point de vue. Non, pas toujours le budget de l'État. Par exemple, notre instance a son budget autonome et d'autres aussi. Mais en tout cas, ce qu'il y a derrière, c'est l'autorité de l'État, mais en même temps, sans relever de l'autorité du gouvernement. Il y a vraiment une distinction entre l'État, l'intérêt général, et le gouvernement qui ne doit pas leur donner d'instructions. C'est en cela qu'elles sont indépendantes. Lorsqu'il y avait une direction des assurances, le ministre donnait des instructions au directeur qui donnait des instructions à ses services. Là, le ministre ne peut pas nous donner d'instructions. Il est représenté à notre collège par des commissaires du gouvernement, qui d'ailleurs ne doivent pas siéger lorsque nous sommes en délibération pour une sanction, ce qui heureusement n'arrive pas trop souvent, mais enfin ça peut arriver. Mais même d'une façon générale, les commissaires du gouvernement sont là comme observateurs, peuvent faire des suggestions, mais ne donne pas d'instruction directe de l'État. Donc on voit bien qu'il y a cette particularité que nous participons à l'organisation des pouvoirs publics, nous utilisons l'autorité de l'État, et en même temps, nous ne recevons pas d'instruction de l'État. Donc c'est d'une certaine manière, et c'est ce qui interroge sur le plan de la démocratie, on en parlera tout à l'heure sûrement, il y a un démembrement de l'autorité de l'État qui est confié, dans laquelle l'État s'abstient volontairement en fait, d'exercer un pouvoir qu'il exerçait autrefois en direct.
Alors, lesquelles de ces autorités de régulation s'occupent de régulation européenne, de mettre en œuvre des régulations qui sont, elles, décidées au niveau européen?
Vous savez, il y a une très grande diversité, un grand nombre, mais surtout une très grande diversité des autorités de régulation en France. Si on essaye de les répartir, il y a des autorités de régulation dans le domaine de la santé. Par exemple, les autorités qui luttent contre le dopage, la Haute Autorité de Santé, l'Agence pour la Sécurité et la Santé des Aliments. Il y a des organes de régulation dans le domaine de la sécurité, et pas seulement donc la sécurité sanitaire. Par exemple, l'Autorité de Sûreté Nucléaire s'occupe de veiller à ce que les installations nucléaires ne fassent pas courir des dangers à nos concitoyens. Il y a une commission qui s'occupe du secret de défense nationale, une autre de la déontologie de la sécurité. Donc c'est un deuxième groupe assez différent. il y a un groupe très vaste qui est toutes les autorités qui s'occupent des libertés publiques. Alors, je ne les citerai pas toutes, mais il y a une commission qui s'occupe de l'accès aux documentations aux documents administratifs. Il y a la fameuse CNIL qui s'occupe d'informatique et liberté. Il y a les commissions qui s'occupent du débat public, du contrôle des financements publics. Une commission assez particulière qui est la commission des interceptions de sécurité, c'est-à-dire en réalité celle qui régule les écoutes téléphoniques, etc. Il y a le comité consultatif national d'éthique. Enfin, on peut en citer beaucoup dans ce domaine des libertés publiques. Mais il y en a d'autres, comme la mienne, comme l'autorité des marchés financiers, comme le CECEI ou le bureau central de tarification, qui agissent dans le domaine financier. C'est tout à fait différent. Il y en a d'autres, on en parle beaucoup, elles sont importantes, qui agissent dans le domaine de la communication, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques dont nous parlions tout à l'heure. Il y en a encore qui s'occupent du domaine de la consommation, la commission de régulation de l'énergie, la commission nationale d'équipement commercial. Donc vous voyez que c'est extrêmement divers, mais dans tous ces cas, il s'agit d'essayer de tracer des règles du jeu, d'assurer l'équilibre et l'harmonie du fonctionnement d'un secteur, l'ouverture à une concurrence libre, mais dans le respect des règles du jeu, et tout ceci au nom des pouvoirs publics, mais sans recevoir d'instruction directe de l'État.
Donc vous parliez tout à l'heure des liens éventuels entre des autorités administratives indépendantes françaises et puis les autorités de régulation européennes. Est-ce que ces liens existent aujourd'hui ? Où est-ce qu'on en est de cette coopération à différentes échelles ?
En fait,
Monsieur Bauchet.
Effectivement, le problème de la transposition en France des directives européennes pose un problème qui, d'ailleurs, dans les faits, se résout. Mais il faut bien prendre conscience que nous avons par an, actuellement, de l'ordre de 600 réglementations européennes et, d'autre part, quelques 100 directives par an qui sont à transposer directement dans le droit français. Puisqu'en fait, le droit de la communauté, nous nous sommes engagés à le respecter, nos actes administratifs. Autrement dit, c'est une machine lourde, c'est certain, mais qui fonctionne pour le moment assez bien. Il ne faut pas penser que rien n'a été fait pour. Par exemple, il faut que vous sachiez que le Conseil d'État a une cellule de plus de 50 personnes qui est faite pour pouvoir répondre à toutes les questions posées par les administrations françaises sur ce problème de transposition. Ils sont capables de répondre à 500 questions par jour actuellement, ce qui quelquefois d'ailleurs se produit. C'est vous dire que c'est une machine relativement lourde, c'est vrai. Seulement, c'est une machine qui fonctionne. D'une façon générale, à propos des autorités administratives françaises, je dirais que les problèmes les plus graves ne sont pas là. Les problèmes sont actuellement, me semble-t-il, mais M. Jorgensen me corrigera, de deux ordres. Le premier, c'est la multiplication de ces autorités de régulation. Nous en avons un grand nombre, puisque nous en sommes actuellement à 39, je crois,
c'est ça.
Autorités de régulation. Or, la multiplication de cette autorité pose un double problème. Le premier, c'est le problème de savoir quel est le rôle respectif du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre, qui est chargé, lui, de faire des réglementations, et le rôle de ces commissions de régulation, qui est aussi, pour un grand nombre d'entre elles, un rôle réglementaire. Est-ce que l'on ne va pas vers une espèce de division de l'exécutif ? D'une part, le ministre avec ses administrations traditionnelles et d'autre part, des autorités indépendantes qui sont chargées aussi de réglementer, sans doute étroitement dans des secteurs où ils ont une compétence particulière, qu'ils ont reçu une compétence particulière et où d'autre part, ils sont capables de faire par exemple des études que les ministères ne font pas, autrement dit, une compétence spécifique. Ceci, effectivement, n'est pas toujours facile à délimiter. Je dois rassurer nos auditeurs en lui disant que les États-Unis connaissent ce problème également depuis un siècle, très exactement. Et ils ont ce problème de savoir où se situe l'exécutif, c'est-à-dire aux États-Unis le président, par rapport aux commissions de régulation, à partir où tous les deux ont un pouvoir réglementaire. En fait, c'est un problème qui préoccupe beaucoup, notamment le pouvoir législatif. Aux États-Unis, périodiquement, vous avez un rapport qui est fait tous les ans par le Congrès montrant les limites à ne pas dépasser et comment on pouvait arriver à séparer, à maintenir le pouvoir de l'exécutif. Une des critiques faites aux autorités réglementaires par l'ensemble des légistes américains, c'est de dire « mais nous n'avons plus un pouvoir exécutif, nous en avons en fait autant de pouvoirs exécutifs qu'il y a notamment de services publics ». Autrement dit, on ne sait plus très bien qui fait quoi en matière d'électricité, en matière d'environnement. Est-ce que c'est finalement le président qui conserve en main l'ensemble de la machine, ou bien avons-nous affaire à 30, c'est le même nom à peu près que l'on a aux États-Unis, autorités d'exécution ? Si bien que ceci bouleverse un peu le schéma, moins aux États-Unis qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, le Congrès conserve la très haute main sur les autorités administratives. Et le contrôle est particulièrement étroit. Il y a des cellules spéciales destinées à suivre au Congrès, dans des rapports annuels, l'activité des autorités administratives pour bien limiter leur champ. Mais ils sont aussi inquiets en disant qu'il y a une espèce de contradiction, non seulement à l'intérieur de l'exécutif, mais il y a aussi une contradiction entre le pouvoir que peut avoir le législatif, puisqu'il donne un blanc-seing en quelque sorte aux autorités, sous réserve d'un contrôle très strict, c'est vrai, mais on a l'impression que ce sont des corps qui flottent en quelque sorte, sans avoir une place, car notamment aux États-Unis, n'est-ce pas, il n'y a pas, la Constitution n'a jamais prévu, ce qui est encore beaucoup plus grave qu'en France, l'existence de ces autorités indépendantes. Bien, plusieurs réformes sont en cours, je n'en parlerai pas. En France, nous retrouvons le même problème avec probablement des solutions différentes. Mais il y a vraiment là un problème qui se pose et qui continuera à se poser au cours des années prochaines.
Il y a effectivement un problème. On le voit bien d'ailleurs dans le titre du rapport qui a été publié l'an dernier par le Parlement, qui s'appelle « Les autorités administratives indépendantes, évaluation d'un objet juridique non identifié ». On sent bien qu'il y a un malaise dans ce titre. Et c'est tout le problème du contrôle démocratique. Alors, il y a effectivement le problème des rapports avec le Parlement. Comme l'a dit le professeur Bouchet, il est sûr que le contrôle du Congrès sur les instances de régulation est plus étroit aux États-Unis qui ne l'est en France. Alors, il y a différents procédés pour améliorer, qui figurent dans les rapports qui traitent de ces sujets, pour améliorer les relations avec le Parlement. Bon, dans un certain nombre de cas, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, nomme directement des membres d'autorités administratives indépendantes. Ce n'est pas le cas pour d'autres. Il y a la question de rapports au Parlement qui sont faits par certaines de ces instances, mais pas par d'autres. On peut imaginer de généraliser ces systèmes. On peut imaginer que les dirigeants des autorités administratives indépendantes puissent être convoqués par les commissions du Parlement d'une façon régulière. C'est aussi une manière d'avoir un contrôle plus étroit du Parlement. On peut aussi, ça arrive dans certains établissements publics, faire siéger des parlementaires directement au collège. Mais on voit bien aussi qu'il y a une limite à trouver. Il ne faut pas non plus confondre les fonctions du pouvoir législatif et les fonctions d'arbitre qui doivent être celles d'une instance de régulation. Quant au lien avec le gouvernement, là aussi, il y a une question qui se pose, puisque la Constitution française dit bien que le gouvernement contrôle l'administration. Et on retrouve ce problème que les autorités administratives indépendantes sont des parties des pouvoirs publics sans être sous l'autorité du gouvernement. Cela dit, le Conseil constitutionnel a jugé et tranché ce cas il y a 20 ans, déjà en 1986, et il a dit que ces autorités étaient bien conformes à la Constitution, tout en limitant leur pouvoir réglementaire. On retrouve cette question, jusqu'à quelle limite peuvent-elles poser des règles générales? Le Conseil constitutionnel a bien dit que ces limites étaient relativement étroites, sinon on dérape. Il n'y a d'ailleurs pas que la question des rapports avec le Parlement et avec le gouvernement, donc avec le pouvoir législatif et avec le pouvoir exécutif. Il y a la question des relations avec le pouvoir judiciaire. Finalement, les décisions que prennent ou les sanctions que peuvent prendre parfois les autorités administratives indépendantes sont sous le contrôle des juges, juge judiciaire ou juge administratif. Donc il y a aussi une sphère de relations qui est importante du point de vue du contrôle démocratique à cet égard. Et puis la dernière sphère, c'est celle des relations directes avec le public. Un certain nombre de rapports qui ont été faits sur ce sujet préconisent qu'il y ait des liens plus étroits avec le public. Bon, la publication des rapports annuels qui doivent être, je pense, dans un but de bonne gouvernance, aussi détaillé que possible, avec des commentaires des décisions prises, est un élément de cette communication avec le public. Un autre qu'on pourrait mettre en œuvre davantage est le dialogue en ligne sur Internet, par exemple. Il y a des moyens de s'exprimer avec la population dont finalement la souveraineté s'exprime, peut-être un peu lointainement, mais à travers les décisions de ces autorités administratives. Alors on peut même se poser la question de savoir s'il faudrait aller plus loin et élire tout ou partie de membres de ces collèges directement. Après tout, aux États-Unis, on élit bien les juges, qui aussi représentent l'intérêt général et doivent prendre des décisions impartiales. Bon, je pense que quand même aller aussi loin présenterait un certain danger pour la démocratie, parce que malgré tout, c'est le pouvoir législatif qui est élu directement. Élire des parties de l'autorité publique exécutive, même si ça n'est que lointainement le pouvoir exécutif, pose peut-être des problèmes. Mais enfin, en tout cas, c'est une question intéressante aussi.
Monsieur Bauchet, sur ces rapports entre le public et les autorités de régulation qui semblent, les liens semblent assez ténus quand même.
Oui, ce que je voudrais dire c'est que, sur ce point, c'est que ce n'est pas un problème particulier aux autorités de régulation. Il y a d'une part une insuffisance de l'information générale donnée au public par les administrations. Et une insuffisance surtout, je dirais que c'est la principale, une ignorance du public de l'ensemble de ces rapports. Oui. En tant qu'universitaire, je me souviens toujours de la réflexion de François Perroux qui m'avait dit « Monsieur Bauchet, faites attention, les meilleures choses sont publiées par les administrations. » C'était vrai, mais on ne les trouvait pas à l'époque. C'était même dans les bibliothèques, puis universités, on ne trouvait pas les 10 rapports quand ils existaient. Ils n'existaient pas toujours. Aujourd'hui, grâce au net, nous avons la possibilité de consulter sans quitter notre fauteuil l'ensemble des rapports de l'administration. Et ceci, ces rapports, je pense aux rapports de la Cour des comptes, notamment aux rapports du Conseil d'État, sont au niveau économique et du droit public particulièrement intéressants. Et je pense que l'inspection des finances doit en mettre aussi sur le net, si je ne m'abuse, actuellement. Voilà. Tous ces rapports sont malheureusement très ignorés du public. Et je critiquerai assez volontiers le pouvoir parlementaire qui s'est au fond assez largement désintéressé de publier des rapports conséquents sur les différentes évolutions de l'État, jusqu'alors. Car effectivement, le rapport auquel a fait allusion M. Jorgensen est un modèle du genre, mais c'est une nouveauté. Et je pense que le pouvoir législatif en France a gravement péché dans ce domaine, beaucoup plus encore que l'administration active, qui, je le répète, a toujours publié des rapports, et des rapports remarquables. Je renvoie pour les différentes administrations qui intéressent le public, et moi en premier, les rapports de la Cour des comptes, qui sont absolument remarquables sur des questions d'actualité, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit le déficit des entreprises publiques, que ce soit les retraites. Ce sont les meilleurs mise au point, je dirais, mise à jour des principaux problèmes donnés. Les auditeurs qui m'entendent, je serais très heureux de savoir combien ils en consultent, ceux-mêmes qui en disposent d'ordinateur. Très peu, manifestement. Et je le regrette infiniment, mais je pense que là, nous allons avoir une évolution de la démocratie spontanément grâce aux progrès techniques. Je m'en réjouis et je pense que sur ce plan-là, il ne faut pas négliger au moment où l'on pense à instaurer des compléments de la démocratie, des consultations multiples. Je pense que si le public que nous sommes tous utilisait bien tout ce qui existe comme élément d'information par l'intermédiaire de l'informatique, nous aurions beaucoup moins de problèmes de démocratisation de nos institutions.
En guise de conclusion, professeur Bauchet, monsieur Jorgensen, où en est la régulation française aujourd'hui? Doit-on parler de plus de libéralisme? Doit-on parler de régulation ou de dérégulation? Est-ce que les États pourraient se trouver de nouvelles marges de manœuvre dans cette histoire, monsieur Bauchet?
Oui, je dois dire qu'effectivement, il y a la traduction de l'anglais ou de l'américain en français qui conduit à énormément de confusion. Pour moi, la régulation, c'est d'abord une régulation dans le domaine de la mécanique. Je me rappelle toujours, c'est les usines machines à vapeur dans le temps qui avaient des petites boules, vous savez, qui automatiquement s'étendaient et régulaient le système mécanique. Dans le domaine économique, la régulation se présente comme étant la même chose. On dit que la régulation tend à multiplier les occasions de concurrence qui constituent une sorte de régulation automatique des systèmes économiques. Naturellement, il faut en plus qu'il y ait un certain nombre de réglementations. Et c'est le rôle des organismes de régulation, pas seulement de créer de la concurrence, mais aussi de s'assurer qu'elle fonctionne bien. Donc c'est là le mot. Alors, malheureusement, quand on parle de politique de régulation, on traduit le « regulation » américain, c'est-à-dire l'existence d'un système qui fonctionne de façon concurrentielle le mieux possible. Mais pour arriver à ce que ce système fonctionne, dans certains cas, il faut naturellement supprimer des réglementations. Autrement dit, c'est dans le pouvoir latif de la création de nouvelles réglementations pour faire mieux fonctionner la concurrence et de la suppression de réglementations pour que cette réglementation fonctionne bien, pour que cette concurrence fonctionne bien, c'est le pouvoir latif qui sépare ce que l'on appelle une politique de réglementation en France, en français, et une politique de déréglementation. La déréglementation, ça veut dire moins de règlements. Le paradoxe, c'est que quand les Américains parlent de « deregulation », ils disent en réalité qu'ils vont supprimer des réglementations. Mais pour que la concurrence fonctionne bien, même lorsqu'ils suppriment des réglementations plus systématiquement par une politique de déréglementation, en réalité, ils créent de nouvelles réglementations pour permettre à la concurrence de fonctionner. Et tous les rapports faits par l'OCDE soulignent le fait que, en réalité, aujourd'hui, pour faire fonctionner la concurrence, il faut finalement plus de règlements qu'il y en avait auparavant. Autrement dit, on en supprime et on en crée pour permettre à la concurrence de fonctionner, au régulateur automatique de fonctionner. Et effectivement, il peut y avoir une certaine déception dans la mesure où on a l'impression d'être inondé de réglementations qui permettent à la concurrence de fonctionner. Et en ce sens, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le fonctionnement de la concurrence exige beaucoup de nouveaux règlements. Voilà.
C'est parfaitement clair ce que dit Pierre Bouchet. On le voit bien, en effet, aux États-Unis. Le Clayton Act, qui vise justement à lutter contre les effets de domination et de monopole sur le marché, date de 1914. Mais beaucoup plus récemment, il y a la fameuse législation Sarbanes-Oxley, qui effectivement introduit un ensemble de règles tellement lourdes, d'ailleurs, que les Européens s'en plaignent et que les Américains eux-mêmes se demandent s'ils ne vont pas revenir un peu en arrière. J'ai eu le plaisir de rencontrer hier M. Oxley, justement, un des deux auteurs de cette législation, qui se rend compte que ça a été un peu loin. Donc, mais cette législation, elle a été prise, effectivement, exactement comme le dit Pierre Bouchet, dans le but de protéger la concurrence, de faire en sorte que le marché fonctionne, et pas de brider le marché. Ça n'a jamais été la mentalité aux États-Unis. Mais effectivement, protéger le marché à libre concurrence, ça suppose parfois de poser beaucoup de règles, y compris des règles nouvelles. Et c'est le paradoxe de ces instances de régulation. Elles ont souvent été présentées comme le moyen d'une politique plus libérale, puisqu'il s'agit de diminuer l'emprise directe de l'État, de distancier un peu le pouvoir régalien, d'avoir une position plus objective et plus neutre. Et en même temps, on peut se demander si on n'a pas superposé de nouvelles contraintes à celles qui existaient déjà, avec l'habitude bien française, quand on crée quelque chose, de ne jamais supprimer ce qui existait avant pour faire la même chose. Donc les recommandations qui s'ajoutent au règlement, les pièces supplémentaires à produire, des sanctions qui peuvent parfois faire peur et empêcher un fonctionnement fluide. Tout ça est aussi une crainte qu'on peut avoir. Et donc, il est d'autant plus important de bien se rappeler que ces instances de régulation ou ces autorités administratives indépendantes doivent rester limitées à un certain champ et qu'il faut un contrôle démocratique sur le fonctionnement. Je crois que aux États-Unis comme en Europe, ce sont des conclusions qui s'imposent à nous.
Merci beaucoup Pierre Bouchet, merci Philippe Jorgensen pour cette émission sur la régulation économique à l'échelle européenne. Merci, bonne journée.